Août 1998. Joe eut 18 ans, comme d'autres achèvent une peine de prison. Le jour de son anniversaire, il se regarda dans le miroir. « Suis-je désirable ? » s'interrogea-t-il. Impossible de le savoir. Il lui sembla être moins laid qu'avant. L'acné avait disparu, laissant place à une barbe qui méritait le rasoir. « Voici ton cadeau, » dit Norman, en lui tendant une enveloppe. À l'intérieur, Joe trouva un ticket pour Burning Man. « Et c'est lui qui me l'offre, » pensa-t-il. Le 28 août, il parcourut à Troyes les 177 kilomètres qui séparent Reno de Black Rock City. La route elle-même prit 2 heures. L'entrée de Burning Man, à cause de la file ininterrompue de véhicules, en dura 4. Arrivés au milieu de la nuit, ils installèrent la tente à la hâte, se couchèrent et s'endormirent aussitôt. Vers 11 heures du matin, Joe sortit et découvrit enfin le site du festival le plus radical de cette époque, le désert de Black Rock, gigantesque cratère de poussière blanche entouré de montagnes décharnées. Pas l'ombre d'une vie ni d'une construction en dehors de l'immense campement. On eût cherché en vain un cactus, un serpent, un vautour ou une mouche. Ni route, ni piste, que du sable. C'est donc ici que je vais vivre ma première expérience sexuelle, se dit Joe avec une assurance vieille de 2 ans. Ce lieu si peu terrestre lui parut idéal. Le sexe, ce devait être une autre planète. Une permanence décibélienne était assurée par la moitié de la population de Black Rock City, soit un peu plus de 10 000 musiciens ou assimilés. En une semaine, il ne faudrait pas compter sur une seconde de silence. Jour et nuit, des génies ou des médiocres, mais plus souvent des génies, donnaient le meilleur d'eux-mêmes au violon, à l'ukulélé, à la basse, au synthétiseur, aux platines ou à la voix. Des enceintes géantes relayaient les créations des uns et des autres, et il fallait s'habituer à cette polyphonie constante. Des oreilles neuves comme celle de Joe ne pouvaient différencier les sons, et toutes ces musiques montaient vers lui, unifiées en un son gigantesque qu'il identifierait au bruit de Burning Man. Il se pencha pour prendre du sable dans sa main. Il sut que ce n'en était pas. Le sable était moins fin et provoquait un effet abrasif. Ceci était de la poussière, d'une finesse et d'une douceur presque insupportables. Cette poudre blanchâtre laissait sur la peau une sensation de savon. L'eau n'en débarrassait pas. Seul le vinaigre en venait à bout. À 11 heures du matin, il faisait chaud, mais c'était très agréable. Un vent sec soufflait parfois, déplaçant des nuées de poussière. Joe mit ses lunettes de ski. Christina sortit de la tente et l'embrassa. « Le premier matin à Burning Man est le plus beau. Tu m'aides à préparer le petit déjeuner ?» Ils avaient apporté de l'eau et de la nourriture pour 7 jours. Sur des réchauds, ils se firent des œufs au bacon et du café. Norman les rejoignit et ils mangèrent au soleil. « Et maintenant, je t'offre avec 3 semaines de retard mon cadeau d'anniversaire, » dit Christina. Elle alla chercher un vélo vert pomme, décoré de fourrures synthétiques et de marguerites plastifiées. « Avec ça, tu vas où tu veux. » Joe remercia, n'osant demander si elle l'avait acheté à sa mère. Il partit aussitôt l'essayer. Le vélo est le principal mode de locomotion à Black Rock City. Il découvrit l'ivresse de rouler dans une ville provisoire, d'en sortir et d'aller aussi loin qu'il est possible. Il voulut rouler jusqu'aux montagnes abruptes et s'aperçut qu'elles étaient très éloignées. Il abandonna le vélo, grimpa sur les premiers contreforts et vit la forme de la ville. 2 tiers de cercle disposés en théâtre antique autour de l'immense statue du Man, l'homme promis aux flammes. Derrière le Man, il y avait le temple, la plus belle construction que l'on brûlerait le dernier jour. Il remonta sur son vélo et roula vers Black Rock City. Plus il s'approchait, plus tout cela lui semblait un mirage. Dans une des rues qui quadrillait l'immense camp, un type se jeta sur lui. « Mon ami, tu peux pas rester comme ça. Regarde-toi, tu es trop mal habillé. Laisse-moi m'occuper de toi. »«
Je n'ai pas d'argent, » balbutia Joe.
« De l'argent, ne prononce plus jamais ce mot. L'argent n'existe pas ici. Je veux t'offrir des vêtements. »
Il suivit l'homme dans sa tente. L'inconnu fouilla un coffre et en sortit une jupe à pois et un caraco doré. « Enfile ça par-dessus ton jean et ton t-shirt !»
Joe s'exécuta.
« Voilà, à présent tu es magnifique.
Veux-tu coucher avec moi ?»«
Non.
Pas de problème. Amuse-toi maintenant que tu es beau. »
Joe continua sa promenade, enchanté par la simplicité des mœurs. Certains se promenaient tout nus, dont quelques filles canons qu'il regarda avec stupéfaction. Mais la plupart étaient habillés à la mode locale. Tutu rose, queue de pigeon à rayures violettes, bottes de fourrure synthétique orange. Les tentes-ateliers foisonnaient, proposant par des affiches les thèmes de réflexion. Ateliers de discussion sur la nature de la matière, ateliers de peinture corporelle, ateliers de sexe tantrique. Celui qui retint le plus Joe fut « Ici, on tresse les poils pubiens ». Il resta longtemps devant la tente, à se demander quel effet cela ferait sur lui et ce qui l'empêchait d'entrer. Il s'abstint. Il n'avait jamais montré son sexe à personne et s'en sentait incapable. Dans une ville de plus de 20 000 habitants, retrouver sa tente n'allait pas de soi. Chacun recevait une adresse digne d'un coup à la bataille navale. A5, I12. Les deux tiers de cercle étaient sillonnés verticalement et horizontalement de lettres et de chiffres. Joe retourna à F6 sans problème. Norman le força à boire un peu d'eau. « On ne sent pas forcément la soif, mais ton corps l'éprouve. »« Où est Christina ?»«
Elle répète pour ce soir avec les Fire Dancers. Ce sont les principales représentations de l'année pour eux. »«
Est-elle bien payée ?»«
Personne ne l'est, mais ici, elle jongle devant un public averti qui a une vraie passion pour le feu. »«
C'est comme chanter du Wagner à Bayreuth. »
Il y a une telle volupté à prester devant des connaisseurs que tu n'as pas besoin d'une autre rétribution.
Joe allait enfin la voir exercer son art. Il avait refusé les nombreuses occasions précédentes, comme ses spectacles à Reno. Il avait préservé pour Burning Man toutes ses virginités. La fête ne s'interrompait jamais, mais c'était la nuit qu'elle donnait sa mesure. On attendait le coucher du soleil pour allumer l'élément sacré du festival. Le feu. Il prenait les formes les plus diverses, brasero, torche, bûcher, lance-flammes, en fonction des combustibles, charbon, poids, bois, propane. Il devenait d'autant plus indispensable que la température chutait. Le feu était brandi, sculpté, façonné, craché et jonglé. Des techniciens du monde entier venaient montrer à Black Rock City leur nouvelle création. Un Indien avait installé un immense barbecue et distribuait des pics de métal afin que les gens puissent écrire dans les braises des mots incandescents qui rougeoyaient pendant quelques secondes d'absolu. Un Italien avait bâti une fontaine de feu grégeois. Un artiste lapon exposait ses statues animalières ourlées de bouches de propane ignées. Tout le bestiaire du feu. Sur un côté de la grande agora, on avait élevé une scène pour le spectacle le plus attendu. Joe et Norman grelottaient dans leur parka, debout devant les tréteaux. L'unique manière de réserver la place était d'y être le premier. Vers minuit, les premiers jongleurs se produisirent. Des hommes couleur de poussière montrèrent comme un catalogue les manières de jouer avec le feu. Torches, pistolets à propane, bâtons aux extrémités enflammées, bolasses. Pendant le premier quart d'heure, leur talent fut occulté par la frayeur du public. Une personne normale qui assistait à cela ne pouvait penser que comment ces gens osent-ils prendre des risques aussi colossaux? Les jongleurs en avaient conscience et ne montraient pas d'emblée que leur but était la beauté. Joe se posa la question inévitable. Que se passe-t-il dans la tête d'un humain qui décide qu'il vouera sa vie à une technique aussi dangereuse? Lui aussi avait choisi de se consacrer à des manipulations difficiles. Au moins, n'y fragilisait-il pas sa santé? Le péril n'était pas illusoire. Chaque année, un fire dancer se retrouvait à l'hôpital au service des grands brûlés. Cela correspondait forcément à un désir de transgression des plus archaïques. À tous les enfants de la Terre, on a ordonné de ne pas jouer avec les allumettes. La pyromanie est l'un des instincts les plus profonds de l'espèce. Rien ne fascine comme le feu. Jongler revient à nier tant la pesanteur que la multiplicité des choses. Le pari du jongleur, est d'assurer le mouvement perpétuel et aérien d'une matière lourde et nombreuse. L'esprit n'a ni poids ni chiffre. Il est indénombrable. Jongler déguise la matière en esprit en conférant à celle-ci les propriétés de celui-là. Le jongleur doit avoir la tête aussi rapide que les mains, doit calculer le temps que prendra la chute de chaque objet et accorder son geste à son estimation. Le jongleur de feu ajoute à ce pari une clause démentielle. La matière, outre son poids et son nombre, possède un danger. Si cette propriété demeure plus d'une fraction de seconde en contact avec le corps, il brûle. Quant au danseur de feu, c'est le fou absolu. C'est un jongleur de feu qui fait de sa technique un acte total. Non pas seulement accomplir des prodiges avec ses bras, mais incarner le miracle de la tête aux pieds. Depuis Nietzsche, on sait que Dieu danse. Si Nietzsche avait pu aller à Burning Man, il aurait connu l'existence d'une espèce supérieure de divinité qui danse avec pour partenaire le meilleur danseur de l'univers, le feu. Les Fire Dancers n'ont pas créé leur art pour le plaisir un peu vulgaire de faire du trop difficile. Il y a une logique profonde à associer ces deux dieux, la danse et le feu. Regarder de grands danseurs provoque le même émoi que regarder une bûche enflammée. Le feu danse, le danseur brûle. C'est le même mouvement, aussi hirsute qu'harmonieux. C'est le combat sans vainqueur entre Dionysos et Apollon. L'alternance continuelle du danger et de la maîtrise, de la folie et de l'intelligence, du désir et de la plénitude. Les langues ont tour à tour leur supériorité. En l'occurrence, l'anglais l'emporte sur le français. Fire dancer, c'est tellement mieux que danseur de feu. Pauvre français de besogneux analytique qui doit établir un constat d'accident, un complément déterminatif. Est-ce un génitif objectif ou subjectif ? Qu'est-ce que la grammaire vient faire entre deux divinités ? C'est l'anglais qui a raison. Il faut jeter les deux mots l'un contre l'autre et qu'ils se débrouillent. Et aussitôt, ils crépitent ensemble.